take a little walk to the edge of town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering.
Géopolitique et histoire des humains.
In a dusty black coat with a red right hand.
Comprendre comment fonctionne le monde et les relations internationales pour faire progresser l'humanité. Première émission. Union européenne, Europe ou des Europes à intérêts variables, géopolitique d'une confédération de nations en crise. Professeur d'histoire, géographie et en section européenne allemand au lycée Félix Esclangon à Manosque, conférencier en histoire et géopolitique à l'université populaire Graines de Savoir, Serge Tizi est venu nous éclairer Europe ou des Europes à intérêts variables, géopolitique d'une confédération de nations en crise.
Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux élèves ici présents, stagiaires à Radio Fréquence Mistral, bonjour James Fontaine. Donc le thème d'aujourd'hui c'est sur l'Europe, donc Europe à géométrie variable, donc l'Europe, cette Europe qui est le parent oublié des informations quotidiennes sur nos ondes et nos médias français. Si on compare avec ce qui se passe en Grande-Bretagne ou en Allemagne, voire même en Italie, on peut être même surpris qu'on ne parle pas plus des pays européens dans un pays, la France, qui est pourtant l'un des grands pays fondateurs de cette Union européenne. Donc cette Europe dont le drapeau est paradoxalement absent des mouvements sociaux au profit du drapeau tricolore. L'Europe est accusée de tous les maux AUX, fake news historiques, viennent embrouiller en plus les citoyens que l'on voit de l'extérieur engagés vers un patriotisme plus cocardier, bleu, blanc, rouge, tout comme en Allemagne, noir, rouge et or, donc ou bleu, rouge, blanc, vert, comme en Italie. Bien, donc au même moment, pourtant, en Pologne, en Roumanie, en Ukraine et maintenant en Grande-Bretagne, on voit de plus en plus fleurir le drapeau européen dans des mouvements qui sont plutôt pro-européens.
Mouvement pro-européen, et c'est là qu'entre en jeu l'histoire, c'est cela ?
Oui, c'est-à-dire qu'il faut en fait dissocier dans cette... il faut essayer de voir un peu qu'est-ce que l'Europe. Alors, il faut dissocier donc l'Europe de l'Union européenne. Mikhail Gorbatchev, à la fin de la guerre froide, qualifiait l'Europe de maison commune, suivant en cela l'idée gaulienne de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Géographiquement, l'Europe n'est pas un continent. La frontière orientale de l'Oural a été fixée par le tsar Pierre le Grand de Russie au XVIIIe siècle pour faire de la Russie un pays dit occidental. Ainsi, les Russes sont devenus donc des Européens par oukase de leur tsar. Les géographes, eux, parlent aujourd'hui plus de continent euro-asiatique et nous serions donc l'isthme de ce grand continent asiatique. L'Europe n'est pas non plus l'UE, l'Union européenne. 28 pays européens appartiennent à l'UE sur 49 à ce jour, Grande-Bretagne comprise, puisque la Grande-Bretagne n'a toujours pas quitté l'Union européenne à ce jour. Au sud de la Méditerranée, c'est la grande frontière, un peu notre Rio Grande à nous, Européens, l'équivalent américain entre les États-Unis et le Mexique. Donc avec quand même des enclaves espagnoles au Maroc, à Melilla et Ceuta. Quant à l'ouest, l'Atlantique n'est pas non plus une frontière, puisque nos départements et régions d'outre-mer françaises, les possessions néerlandaises, portugaises, espagnoles, font aussi partie de l'Union européenne. Et c'est là qu'entre en jeu l'histoire.
L'Europe est-elle donc un idéal ?
Alors effectivement, c'est peut-être plus un idéal qu'une réalité géographique. À la Renaissance, puis au siècle des Lumières, avec notamment Jean-Jacques Rousseau et Emmanuel Kant, vient l'idée d'Europe. Victor Hugo, lui, proclame à l'Assemblée nationale, après la guerre de 1870, la nécessité de construire les États-Unis d'Europe après les horreurs de la guerre contre les Prussiens, rejoignant ainsi les socialistes allemands, qui eux vont être interdits par Bismarck pour ce crime de lèse-majesté. Comment parler d'États-Unis d'Europe alors que nous venons de remporter la grande victoire sur l'ennemi héréditaire qui est la France? Ce n'est pas possible. Donc cette idée revient après la guerre 14-18 par les socialistes Albert Thomas et Aristide Briand. Il ne peut y avoir de paix sans justice sociale, ni de paix sans réelle fraternité européenne. Cependant, la crise mondiale de 1929 et une paix de vainqueurs teintée de nationalisme remet l'idée au rang d'utopie. Les nations sont encore grandes par leurs colonies, c'est le temps des nations et du nationalisme, et celui aussi du protectionnisme. En 1945, l'Europe est en ruine et sa puissance mondiale coloniale est remise en question, tant par les grandes puissances États-Unis et URSS que par les peuples jusqu'ici dominés. Donc l'idée européenne, elle renaît quand ? Elle renaît en définitive pendant le conflit mondial. Elle renaît en fait dans les prisons politiques, notamment celle d'Italie, de l'île de Ventone, donc où vous avez des socialistes Eugenio Colori et Altiero Spinelli qui rédigent un manifeste pour une Europe libre et unie. Cette idée est reprise aussi par les résistants allemands de la Rose Blanche et le comité français pour la Fédération européenne à Lyon. Ainsi, l'idée libérale européenne fédéraliste revient avec le conflit dans la résistance, au contraire de celui que voulait donc le Troisième Reich d'Adolf Hitler, c'est-à-dire une Europe militaire dictatoriale. La situation après-guerre, elle, est désastreuse. Et c'est ce qui enclenche donc Winston Churchill en 1946 à appeler de ses voeux la constitution des États-Unis d'Europe. Suivi un an plus tard par George Orwell, qui demande avec les sociodémocrates européens les États-Unis socialistes d'Europe. Ceci se fait dans un contexte de guerre froide entre l'Est, dominé par Staline, et l'Ouest, protégé par les États-Unis d'Amérique. Division qui restera effective jusqu'en 1990. C'est le 9 mai 1950, 9 mai qui est désormais la fête de l'Europe, par la déclaration de Robert Schuman, donc ministre des Affaires étrangères français, que commence concrètement la construction européenne. 6 pays rejoignent cet appel, la France donc, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et ensuite l'Allemagne. Alors l'Allemagne, le contexte est un peu difficile, ce pays vient juste d'être reformé en 1949 pour sa version ouest-allemande, c'est-à-dire la République fédérale d'Allemagne, la République démocratique allemande étant sous domination stalinienne. Et ce pays donc est inclus dans ce processus unificateur, plus par méfiance, parce que les Français, les Belges et les Hollandais ont déjà vu la Wehrmacht et l'Allemagne occuper le territoire. Et donc c'est une façon pour les Européens de contrôler un peu ce que font les Allemands. On est à peine à 5 ans de la guerre. Et il y a une grosse méfiance vis-à-vis de l'Allemagne. Ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, 70 ans plus tard, on soit toujours aussi méfiant chez certains hommes politiques français. Bien, je vais revenir dessus par la suite. Donc, on fait quoi ? On se met d'accord sur quoi ? On se met d'accord d'abord sur le charbon et l'acier. Pourquoi l'acier ? Parce que c'est avec ça qu'on reconstruit les ponts, c'est avec ça qu'on reconstruit les chemins de fer, c'est avec ça qu'on reconstruit donc l'industrie. Et le charbon, pourquoi ? Bah parce que le charbon, c'est notre énergie européenne. On n'a pas encore découvert le pétrole en Algérie, on n'a pas encore exploité toutes les nappes de pétrole que l'on a sur la mer du Nord. Bref, et donc le charbon, c'est ce qui nous sert à nous chauffer à l'époque, nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents se chauffaient grâce à ça. Et notre industrie ne fonctionnait que grâce à ça. Rappelons que les seuls pays acceptables à l'époque, dans ce plan de Schuman, sont les États dits démocratiques, libérales, avec, à l'époque, un État-providence fort, c'est-à-dire une politique plus keynésienne, c'est-à-dire l'État intervient dans la reconstruction et dans l'économie par les nationalisations des banques, des services publics, des entreprises, de certaines entreprises stratégiques, donc par des planifications, puisqu'à l'époque, il fallait reconstruire l'ensemble des bâtiments. Je souligne d'ailleurs nos élèves d'Esclangon que c'est à ce moment-là qui est construit le lycée Esclangon du fait de cette planification, étant donné qu'il fallait répondre aussi à une nouvelle société et à un baby-boom qui a engagé donc les enfants de Manosque à être plus scolarisés. Donc la Grande-Bretagne, à l'époque, dans les années 50, refuse de rentrer dans le processus européen, malgré les appels de Winston Churchill, mais pour une raison très simple, c'est qu'elle se tourne vers ses dominions, c'est-à-dire le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud à l'époque et son domaine colonial qui reste encore suffisamment puissant pour qu'elle puisse être considérée comme une grande puissance. Pour la France, le jeu est un peu paradoxal puisque en même temps qu'elle se tourne vers l'Europe, la France s'engage vers deux guerres, hein, la guerre d'Indochine et puis la guerre d'Algérie par la suite à partir de 1954. Et enfin, donc, puisque ce n'est qu'un club de démocratie, donc les six pays que j'ai nommés, ça exclut automatiquement qui ? Ben, ça exclut donc l'Espagne, qui est dominée par Franco, et puis par la dictature franquiste, et le Portugal, qui est dominé par la dictature de Salazar. Quant à l'Irlande, ben, l'Irlande a tellement combattu pour son indépendance qu'elle n'a aucune envie de rentrer dans une construction européenne, quelle qu'elle soit, d'autant plus qu'elle est neutre, elle n'appartient pas à l'OTAN, y compris la Suède, c'est pareil, ne rentre pas, la Norvège non plus. Bref, on est dans une Europe qui est donc une Europe purement continentale et très resserrée autour des six premiers pays. À 69 ans plus tard, l'Union européenne n'est pas les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas dans le vœu de Victor Hugo ou d'un certain nombre d'idéalistes qu'on pourrait nommer utopistes de l'époque. Le traité de Rome qui est signé en 1957 entre les six pays a créé en fait la Communauté économique européenne qui avait pour mission l'accroissement des échanges entre les pays membres et l'indépendance économique vis-à-vis des États-Unis dans un contexte de reconstruction économique mais aussi géopolitique et de décolonisation. C'est-à-dire que bizarrement les pays signataires en 1957 se tournaient déjà plus vers une entente européenne que véritablement leur domaine colonial, que ce soit les Pays-Bas qui en avaient perdu une bonne partie, que ce soit la France qui était en train de se désengager petit à petit de son domaine colonial, même si elle poursuivait la guerre en Algérie. La fin de la guerre froide, ensuite, en 1989-1990, a obligé donc cette dite communauté économique européenne à évoluer, c'est-à-dire à lui donner un traité plus fort, ce qu'on appellerait aujourd'hui une intégration, à renforcer l'intégration, c'est-à-dire le fait d'être de plus en plus, il faut le dire, fédéral ou confédéral. Donc, et c'est ce qui a amené au traité de Maastricht de 1993, créant l'Union européenne, mais aussi par la même occasion une double citoyenneté, c'est-à-dire que je suis citoyen français, italien, grec, polonais, et à la fois je me retrouve être citoyen européen et pleinement citoyen européen. Par la même occasion, l'Europe se structure, c'est-à-dire qu'on commence à dire, on va faire les accords de Schengen. Alors les accords de Schengen, c'est quoi ? Eh bien, c'est la possibilité pour chaque Européen et chaque habitant en Europe de pouvoir voyager comme il l'entend et comme il le souhaite, de pouvoir traverser les frontières sans avoir de frontières. À l'époque, j'habitais à Strasbourg et on a vu le démantèlement des douanes sur le pont qui rejoignait Strasbourg et Kiel. Et c'était à notre grande joie, parce que enfin, on pouvait faire des achats librement en Allemagne, c'est-à-dire acheter nos paquets de cigarettes à 1 marque à l'époque, et puis au lieu de 6 francs en France par la même occasion. Donc on était dans quelque chose qui était vu et vécu comme étant quelque chose de bénéfique pour la population. Je souligne quand même que ces accords de Schengen ne concernent pas la Grande-Bretagne, puisqu'ils s'en sont toujours mis un peu à côté, les Britanniques ayant du mal à se sentir européens tellement ils sont, on va dire, insulaires. Ce qui a aussi joué un rôle à ce moment-là dans les années 90, c'est que immédiatement s'est posé un problème d'intégration des pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'ils venaient de se libérer. J'ai bien dit de se libérer, ils n'ont pas été libérés par nous l'Ouest, mais ils ont été libérés par Gorbatchev à l'époque, le président de l'Union soviétique, qui venait d'être libéré de la domination soviétique et russe et qui avait pleinement acquis leur indépendance à ce moment-là. Et là, s'est posé un problème, et le problème est le suivant, c'est que tout de suite, on a eu une guerre civile qui s'est produite en ex-Yougoslavie, une guerre civile qui a mené à un certain nombre d'atrocités, l'intervention des Nations Unies avec des célèbres casques bleus qui se baladaient à Sarajevo, tués par ou blessés par des snipers serbes, bosniaques, croates et compagnie. Et donc, face à ce chaos, les pays européens se sont dit, il faut vite intégrer les pays comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, parce que la Tchécoslovaquie ont commencé aussi à se poser des questions, non pas de guerre civile, mais de séparation, et donc garantir la liberté, garantir les droits de l'homme, garantir un développement économique ne passait que par l'intégration la plus rapide de ces pays qu'on appelle les PESCO, les pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire la Pologne, les Pays-Baltes, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, histoire de qu'ils se développent et qu'ils soient en paix le plus rapidement possible avec les garanties d'un état de droit. C'est-à-dire que nous sommes quand même dans des états démocratiques, nonobstant ce qui peut être raconté à droite à gauche dans les médias. Cependant, pour que ce soit viable, pour que cette intégration soit viable dans l'Union européenne, on a demandé à ce que ces pays fassent de cruels efforts, et j'insiste bien sur le mot « cruels efforts », parce que pendant la campagne notamment sur la Constitution européenne, en 2005, on avait loisir de dire que ah bah oui, mais on peut pas accepter une constitution, n'est-ce pas, le plombier polonais va nous prendre notre boulot. Oui, c'est vrai. Bon, on se pose le problème du plombier polonais. On ne s'est pas véritablement posé le problème du pauvre portugais ou du pauvre espagnol qui venait travailler chez nous à l'époque. Mais enfin, voilà, on était là dans un concept. Bon, puisqu'ils sont moins bien payés, ils vont venir nous sacrifier et nous prendre notre argent, nos emplois. Seulement, il faut être complètement juste avec ces pays, avec les ressortissants de ces pays. C'est que on leur a demandé donc des sacrifices au niveau économique. On a fermé des entreprises parce qu'elles n'étaient pas rentables dans les critères européens, ouest-européens. On a privatisé des fermes en les enjoignant à se moderniser comme les nôtres parce que bah, c'était pas rentable dans nos critères européens. On a fait la même chose avec les industries. Vous avez par exemple ici dans le 04 des ouvriers de Château Arnoux qui sont partis en Slovaquie pour apprendre à des Slovaques comment on fabrique du plastique pour qu'ensuite l'entreprise française, hein, je rappelle, ferme en fait l'entreprise de Château Arnoux pour en fait délocaliser et produire à l'autre bout de la Slovaquie pour une main-d'œuvre moins chère. Est-ce que c'est de la faute des Européens de l'Est? Non. On voit bien que c'est en fait plus en fait quelque chose qui concerne en fait des chefs d'entreprise qui délocalisent parce que bah, ça leur rapporte de l'argent et puis ça rapporte aussi à des puissances financières qui sont essentiellement les banques Rothschild ou des choses de ce type, mais juste la BNP, hein, le Crédit Agricole, des banques tout à fait honorables, voilà, qui ont pignon sur rue. Donc, nous avons donc une Europe actuelle et je regrette de le dire face à des eurosceptiques nationalistes teintés de patriotisme quand ça leur chante, mais nous avons une Europe plus gaullienne que fédérale, c'est-à-dire que nous sommes plus dans une confédération de nations qu'une fédération, comme l'entendaient Victor Hugo et les pères fondateurs de l'Union européenne. Nous allons faire maintenant une petite pause musicale avec Arnaud.
Ha!
Confédération, fédération, quelles sont les différences ?
Les différences, cher James, sont notables. C'est-à-dire que si nous étions une fédération, quand Donald Trump ou Xi Jinping ou Poutine ou Erdogan ou qui que ce soit d'autre dans le monde voudrait nous parler, il ne parlerait qu'à un interlocuteur élu par les citoyens et il ne ferait plus la tournée des capitales européennes qui comptent, c'est-à-dire grosso modo Londres, Berlin et Paris, ou plutôt Paris, Londres et Berlin. Berlin n'étant pas une grande capitale, mis à part la présence d'Angela Merkel et du Bundestag. Donc nous sommes ici dans quelque chose qui est une construction. Alors je vais essayer de prendre ça de façon imagée, mais imaginons 5 minutes. L'Union européenne aujourd'hui, c'est une maison qui a des fondations, qui est hors sol hors d'eau, mais qui n'a pas de fenêtre. Et dont on ne connaît pas encore tout à fait les limites, puisqu'on a encore quelques projets. Vous avez des pays qui demandent en ce moment leur adhésion. Vous avez la Serbie, vous avez l'Albanie, vous avez la Macédoine, vous avez la Bosnie-Herzégovine. Donc c'est pas encore terminé. C'est en construction. On a un jardin qui serait le monde, hein. Faisons un peu cette comparaison. Et donc, l'Europe, on serait là avec des fenêtres. Et on a les Anglais qui, il y a 2 ans, ont dit, tiens, on prend la porte-fenêtre et puis on part. Mais on voudrait quand même pouvoir rentrer encore dans la maison. Alors nous, on leur dit oui, non mais, vous voyez, là, c'est pas possible. Alors, on envoie quelqu'un, les 27 autres pays ont envoyé M. Barnier, dire à Theresa May, à la première ministre britannique, écoutez, non, si vous partez avec les portes-fenêtres, vous partez directement, vous nous laissez les portes, et puis nous on ferme. Ah non, mais c'est pas comme ça qu'on voudrait, nous on voudrait quand même pouvoir rentrer encore. Alors on dit, oui, mais c'est comme dans un supermarché, tu peux pas être pour le bio et puis rentrer dans un supermarché et dire non, je prends les produits qui me conviennent et pas ce que je voudrais. Donc on est un peu dans une situation... Donc, de confédération, c'est-à-dire qu'en fait, chaque État fait comme il veut. Alors, je profite maintenant d'avoir des élèves ici, mais quand j'étais élève au lycée français à Berlin, nous avions des horaires allemands, c'est-à-dire qu'on travaillait de 8h à 13h. Aujourd'hui, un élève allemand, italien, anglais, travaille généralement, s'arrête à 15h. C'est-à-dire que c'est du ressort de chaque nation, voire chaque Länder en Allemagne, de définir les horaires de travail d'un élève. Il n'y a pas d'horaire de travail d'un élève autre que ceux qui sont fixés par ces pays-là. Et nous, en France, on est à 8h, 18h, donc en fait, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle européenne sur le rythme scolaire, il n'y a pas de règle européenne sur le social, il n'y a pas de règle européenne sur l'économie, c'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, des écarts de salaire énormes entre des écarts de salaire allemand, français, roumain, ou voilà, on est quand même à des écarts énormes, hein. 145 euros par mois pour un roumain, on va dire un SMIC à 1100, 1200 pour un français, vous imaginez les écarts que nous pouvons avoir. Et quand on parle de l'Europe, on parle aussi de quelque chose qui n'a pas de capitale fixe, c'est-à-dire qu'on a 3 capitales, donc on a Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg. On a Francfort, une 4e petite, c'est là qu'est la Banque Centrale Européenne. Donc, et en plus de ça, on a Londres, Paris, Berlin, donc qui jouent leur rôle de capitale nationale. Donc on est plus dans une confédération où en fait on décide d'un accord avec nous-mêmes ce qu'on a envie de mettre dans le pot commun européen. C'est-à-dire que les pères fondateurs, quand ils étaient dans les années 50-60, quand toute l'économie est à reconstruire, ils se sont dit, on n'a qu'à faire des routes, des autoroutes, donc ils ont planifié les autoroutes, ils ont planifié le tunnel sous le Mont Blanc, ils ont planifié, un jour ou l'autre, on pourrait peut-être faire un tunnel sous la Manche. James et moi, on a connu la construction de ce tunnel. Bon, c'est pas les Anglais et les Français qui l'ont payé seuls, hein, c'est l'ensemble des Européens qui l'ont payé, qui ont payé l'étude, qui ont payé les travaux, donc ça profite à l'ensemble des Européens. Et si maintenant je peux prendre le TGV pour aller jusqu'à Francfort ou Hambourg ou Londres, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu un projet commun. On s'est dit, qu'est-ce qu'on met dans le commun ? Alors, on a mis ça. On a mis l'atome et la recherche atomique. Ici, à Cadarache, vous avez à la fois des savants français, mais vous avez aussi des savants européens. Vous avez maintenant des savants internationaux, puisqu'on a le projet d'ITER. Voilà, on est dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on met en commun ? Donc, qu'est-ce qu'on met en commun ? On a mis en commun ce qu'on voulait. Alors, à un moment donné, quand l'Europe fonctionne bien, on arrive à faire des programmes communs. Quand l'Europe fonctionne pas bien, on pinaille. On est là, Erasmus, quand même, c'est beau comme projet, hein. Mais bon, ça coûte un peu cher. Si on pouvait faire des économies, donc on sacrifie. Enfin, on a eu à un moment donné la tentative de certains pays à sacrifier Erasmus. Il a fallu l'intervention de François Hollande à l'époque pour dire non, Erasmus, on le garde parce que c'est l'un des beaux projets. C'est l'un des projets fondateurs et mobilisateurs pour la jeunesse de ce continent. Et je rappelle d'ailleurs à tout le monde que il est quasiment obligatoire d'avoir fait des études à l'étranger, de maîtriser une langue étrangère, ce qui n'est pas non plus un mal, notamment pour pour nous Français. Vous avez donc une construction qui s'est faite confédérale où les pays avaient tout le pouvoir. Et c'est là qu'est arrivée l'envie, puisqu'on était en train de construire une monnaie commune, l'euro, que ne possèdent que 19 pays sur les 28 actuels. C'est là que est arrivé, en fait, l'euro, et qu'on s'est dit, pour l'euro, ça serait bien si on allait un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une monnaie et à frapper une monnaie commune, il vaut mieux avoir une politique économique commune. C'est-à-dire qu'on soit tous d'accord sur comment on fait des taxes, comment se passe l'économie, comment... Voilà. Et donc, certains se sont dit, on n'a qu'à faire une constitution européenne. Seulement, la constitution européenne est arrivée à un mauvais moment. Faut dire aussi qu'elle était un peu gravée dans le marbre, parce qu'elle était marquée. Déjà, elle était très longue. Les Français, est-ce qu'ils ont tous lu? Pas évident. Mais surtout, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle fixait dans le marbre un certain nombre de principes. Est-ce qu'il fallait absolument qu'on soit très libéraux, ultra-libéraux? Et beaucoup de gens qui ont voté, de citoyens qui ont voté, parce que je préfère le terme de citoyen à celui de gens, beaucoup de citoyens qui ont voté à ce moment-là ont dit, mais nous, ce qu'on veut, nous, c'est une Europe sociale. Et l'Europe sociale, elle n'est pas là si on est dans la compétition constante entre salariés, espagnols, portugais, français, allemand, c'est pas possible, on peut pas être en compétition avec, par exemple, à l'époque, l'Allemagne n'avait pas de SMIC, on peut pas être en compétition légitime et libre et honnête entre pays avec de telles différences. Donc, c'est l'une des explications pourquoi on a eu un non, donc en France et chez les Hollandais, c'est exactement la même chose, avec exactement les mêmes principes. Ah, bien sûr, on a toujours un petit relent patriotique, voire nationaliste chez certains, mais c'est pas ce courant-là qui a remporté la mise en 2005. Le seul problème de ces partisans du non, notamment, on va dire, à gauche ou démocrate, on va dire, c'est que ces partisans ont dit, on voudrait un plan B, on vous propose un plan B. Mais le plan B, en fait, ils n'ont jamais véritablement réfléchi à la question, ils n'ont jamais annoncé le plan B. Et en tout cas, ils sont partis ensuite très désunis pour annoncer un plan B quel qu'il soit. Donc, résultat des courses, on est arrivé en 2007 à une situation de non-gestion, c'est-à-dire que les pays gouvernementaux, les États gouvernementaux géraient l'Europe. Le Parlement européen n'avait pas véritablement voix au chapitre, même s'il était déjà élu au suffrage universel par les citoyens européens. Et donc, on s'est dit, les États, en tout cas, se sont dit, on n'a qu'à refaire un autre traité, et c'est l'origine du traité de Lisbonne. Alors, je le dis tout de suite, le traité de Lisbonne ne remet pas la Constitution, c'est-à-dire que le vote des Français a été honoré. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Constitution à l'heure actuelle européenne, que ce soit bien clair. Quand on vous dit oui, mais on a refait le... Non, parce qu'en fait, l'Europe, c'est une série de traités. C'est un peu, pardonnez-moi l'image, mais c'est un peu comme un contrat de mariage. Voilà, quand on divorce, le contrat de mariage est rompu, donc on peut le rompre. Une Constitution, c'est pas la même chose. Là, c'est plus filial, c'est plus familial. Faire une Constitution, ça vous engage sur le long terme. Les Constitutions françaises, on peut parler de Constitution française et puis en faire 5, voire même en désirer une 6e, mais il n'empêche que ça reste quand même un contrat politique entre des citoyens et sur le fonctionnement d'un État. Là, ici, on n'a pas de contrat politique entre des citoyens européens et l'État. On n'a que des traités, c'est-à-dire des accords entre États. C'est une grande différence parce que si on avait une constitution, on pourrait réclamer à ce moment-là un changement de constitution et réclamer enfin un président élu des États-Unis d'Europe. On pourrait effectivement avoir un Parlement européen qui a véritablement un pouvoir de contrôle et pas seulement un pouvoir de lever la main pour savoir si Monsieur Barroso ou Juncker peut être le commissaire européen en chef. On pourrait avoir une véritable politique économique. On pourrait aussi, je vais revenir dessus, avoir une politique de défense correcte. Donc, on a en fait ce qui a été adopté à Lisbonne, donc dans le traité de Lisbonne de 2007, ce qui a été adopté, c'est des modalités d'organisation entre les 28 pays européens. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour que 28 européens soient d'accord? Alors, je vous engage à essayer de voir un peu dans vos familles respectives, comment ça se passe quand on est déjà deux parents, ou est-ce qu'on part en vacances? Alors, c'est déjà un gros débat. Est-ce qu'on part chez ta mère, chez la tienne? Bon, voilà. Non, mais enfin, c'est toujours la tienne. Donc, voilà. On est toujours dans le compromis et un essai de tolérance. D'accord? C'est ça, qui se passe. Et en fait, pensez seulement que l'Europe, c'est aussi une grande famille. Je répète, c'était cette maison hors sol, hors d'eau, et à l'intérieur, vous avez une famille. Bon, et la famille, il y en a qui voudraient avoir plus de droits, d'autres qui sont plus gros, d'autres qui sont plus puissants, et y a les pères fondateurs qui disent « Oh, nous, on est les 6 premiers », les autres qui disent « Oui, nous, on est des enfants, mais on voudrait bien être respectés ». Bref, vous êtes un peu dans ce climat de famille, avec des cousins, des choses de ce type. Bien. Et donc, dans ce concert européen, a été décidé d'avoir... non pas une unanimité, parce que c'était plus possible à 28 d'être unanime. La seule chose sur laquelle on est d'accord pour l'unanimité, c'est la défense, et encore, ça change en ce moment. Mais on a décidé, en fait, d'avoir une majorité, ce qu'on appelle une majorité qualifiée. C'est-à-dire que pour qu'une décision soit prise par le Conseil européen, il faut que les chefs d'État, les ministres qui sont invités, bon, par exemple, vous avez des conseils européens de ministres de l'éducation, des ministres de l'éducation, vous avez des conseils européens de ministres des finances, vous avez des conseils européens de ministres de la défense, vous avez des conseils de ministres de l'intérieur, vous avez des conseils européens à peu près à toutes les sauces possibles et imaginables. Bien, la dernière branche étant le conseil des ministres environnementaux dont personne ne parle, enfin bon, ça c'est autre chose. Et donc ce conseil européen, en fait, pour être à 28, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui a été décidé? Il a été décidé que, il fallait que, pour qu'une décision soit prise par le Conseil européen, il fallait donc qu'on ait plus de 54% des pays présents qui soient pour une résolution. Et qu'en plus de ça, ces 54% représentent plus de 60% de la population européenne. C'est vous dire que là, on est quand même bien dans le compromis, hein. Quand on entend dans la presse et dans les médias des choses du style Bruxelles nous impose, faisons bien attention à ce qu'on est en train de dire. Bruxelles nous impose rien du tout. Ce sont les États européens qui nous imposent. Et nous-mêmes, nous nous imposons des choses à nous. Je vais le dire tout de suite. Les 3% de critères de convergence pour les budgets et tout s'en suit, c'est pas les Allemands qui nous l'ont imposé, c'est pas les Italiens, c'est nous les Français qui avons dit que ça serait comme ça à l'époque de François Mitterrand. Voilà. Et ce qu'on se donne à nous, les autres pays l'appliquent à l'heure actuelle. Et nous, on a toujours plus de mal que les autres à le faire. Pourquoi ? Parce que nous avons des responsabilités que n'ont pas d'autres pays européens. C'est ça le grand problème. Le grand problème à l'heure actuelle, c'est que vous avez des puissances. Vous avez la Grande-Bretagne qui est une puissance internationale, qui joue un rôle majeur aux Nations Unies. Vous avez la France qui joue un rôle majeur aux Nations Unies. Vous avez l'Allemagne qui souhaiterait bien en jouer un, mais qui n'a pas la même puissance que la France. Vous avez les puissances militaires, vous en avez d'autres qui ne sont pas. Les deux puissances militaires véritables, c'est-à-dire celles qui peuvent mener des opérations extérieures, comme on appelle ça, sont en fait la Grande-Bretagne et la France. Les autres ne sont pas des puissances majeures, ils n'arrivent pas à en intervenir, n'ont pas ni les renseignements qu'il faut, ni le potentiel militaire, ni les capacités, ni l'entraînement, ni quoi que ce soit. Même l'armée allemande, qui fut d'une époque très puissante, n'est plus que l'ombre d'elle-même, parce que les Allemands n'ont pas envie d'avoir une puissance militaire, c'est pas ce qui les intéresse pour l'instant. Donc je répète, ce sont bien les États qui décident des traités, qui décident des relations avec les autres pays. Quand Xi Jinping vient en Europe, il vient pas voir obligatoirement Bruxelles. Il vient voir d'abord Monsieur Macron, il vient voir Angela Merkel, il vient voir Theresa May, il vient voir Monsieur Salvini s'il faut, mais il vient pas voir obligatoirement l'Union européenne à Bruxelles. C'est pas véritablement là que sont les centres de pouvoir de l'Europe à l'heure actuelle. Donc je répète, on est plus en fait dans un concert des nations intérieures de l'Europe qui décident seules de leurs intérêts. Je le répète, c'est défendre ses intérêts. Une nation défend d'abord ses intérêts. Ce qu'on met dans le pot commun, et c'est pour ça qu'on parle souvent de la taille du concombre et du calibre de la tomate et compagnie, c'est vraiment la seule chose qu'on a mis un peu de côté, enfin qu'on a mis dans le pot commun. Et quand on dit oui, mais regardez, Monsieur Juncker, qui c'est qu'il a élu ? Celui qu'il a élu. Celui qui a désigné, ce sont les chefs d'État qui ont désigné cet homme-là comme étant le président de la Commission européenne. Et je rappelle que ce président de la Commission européenne et tous les membres de la Commission européenne sont invalidés par un vote au Parlement européen. Et c'est pour ça qu'il est important de participer aux élections européennes en mai prochain. C'est parce que si vous ne donnez pas votre voix ou si vous la donnez à mauvais escient, on va dire, vous aurez la Commission européenne que vous méritez. Vous avez la politique que vous méritez. C'est-à-dire, on peut pas s'abstenir. Je veux dire, l'abstention, c'est toujours un risque que l'on prend, que ceux qui ne s'abstiennent pas remportent la mise. Après, il faut faire de la politique, il faut militer, ça n'empêche pas l'esprit critique, loin de là, de moi l'idée. Mais il faut être raisonnable dans la critique. La chose qu'on peut dire quand même, c'est que on peut quand même légitimement se poser les questions, non pas de ce Parlement européen, mais de l'architecture qu'elle a et du rôle que peut avoir le Parlement européen dans cette politique européenne actuelle. C'est-à-dire, le Parlement européen vote des lois. Seulement, un pays peut ne pas les appliquer. Un ministre d'un autre pays européen peut ne pas appliquer les lois qui sont résolues au Parlement européen. Donc c'est pour ça, par exemple, que la France, par exemple, pour l'état de ses prisons, est régulièrement interpellée, voire condamnée par l'Union européenne en disant « faites attention à l'état de vos prisons, vous rendez compte un peu de ce qui se passe dans vos prisons, c'est indigne ». C'est aussi pour ça que la Pologne a été obligée de revoir un peu sa copie sur les droits pour l'avortement pour les femmes polonaises et sur l'indépendance de la justice dans le cadre d'une révision de sa constitution qu'elle a eue l'année dernière. Voilà.
Pourquoi alors cette critique actuelle vis-à-vis de l'Union européenne ?
Il y a deux, enfin, pour ma part, il peut y avoir trois facteurs. Le premier facteur, c'est la méconnaissance. C'est-à-dire que, on parle pas suffisamment de l'Europe et des bienfaits de l'Europe dans nos médias. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, les hommes politiques, eux, a priori, sont plus responsables que le citoyen qui, lui, en fait, attend que son représentant lui dise ce qu'il fait, ce qu'il pense et comment il va résoudre les problèmes. En fait, on a des hommes politiques et, enfin, un personnel politique qui n'est pas véritablement à l'aune du défi européen. Bon, prenons par exemple le Brexit, par exemple. Bon, on a des hommes politiques britanniques qui ont dit, bah, vous savez, c'était quand même mieux avant. Bon, on a un peu ce trip aussi en France, de c'était mieux avant, du temps de De Gaulle, on avait de l'emploi, du temps de machin, voilà, tout ça fonctionnait très bien. Et puis c'est l'Europe qui est responsable de tout, dès qu'il y a un problème, c'est l'Europe. Seulement, on ne mesure pas ici aussi non plus tous les bienfaits de l'Europe, c'est-à-dire les subventions qui tombent, la politique économique, la politique sociale, même si on a des différences sociales, on a quand même des droits en Europe qui n'existent nulle part ailleurs. Sécurité sociale, vous en avez dans tous les pays, même s'il y a des degrés différentes sécurités sociales, mais vous en avez partout. Les Américains rêveraient d'avoir une sécurité sociale comme les nôtres. Les Africains rêveraient d'avoir un système scolaire comme le nôtre, même si on bosse de 8h à 18h, même si on est dans des Algéco, même si. Je veux dire, ce n'est pas véritablement le fait d'avoir un drapeau tricolore ou européen dans sa salle qui va changer l'histoire du monde et l'histoire d'Europe. Seulement, il faut faire attention. Les Brexitiens, par exemple, ou les Brexiteurs, ou ceux qui sont pour le Frexit, et tous ces petits Salvini et compagnie, à un moment donné, il y a une réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que l'Europe, c'est comme si vous aviez un supermarché et que tout d'un coup, vous décidiez de ne plus rentrer dans le supermarché. Vous ne pouvez ni y vendre, ni en acheter. Les Anglais auraient voulu le beurre et l'argent du beurre. J'invite les Français à faire très attention. Le jour où on se coupera de l'Europe, si jamais c'est comme ça qu'ils vont voter, vous allez faire comment, vous, avec votre principal partenaire économique, qui est l'Allemagne, qui achète 60% des produits français? Et comment vont faire les Allemands avec nous? Est-ce qu'on va devoir payer des taxes aux frontières, comme c'était le cas il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans? C'est quand même un des enjeux. Après, on peut être critique, hein. La critique n'est pas dénuée de ce discours. On peut critiquer le fait qu'on ne se soit pas mis d'accord sur des taxes, ne serait-ce qu'une taxe Tobin, ne serait-ce que une égalité des taxes sur les entreprises. Mais comment à ce moment-là l'Irlande va se développer si elle augmente les taxes sur les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon et autres boîtes américaines? Et si on avait une politique européenne, on pourrait véritablement se poser la question. Est-ce que les Américains oseraient nous interdire de faire du commerce avec l'Iran si on avait une véritable Union européenne? Est-ce qu'ils ne se servent pas justement de la division des Européens pour mieux régner sur l'économie mondiale? Je veux dire, parce que l'Europe pourrait très bien à ce moment-là remplacer le dollar. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux dire, on est suffisamment puissants, nos entreprises sont suffisamment puissantes pour leur damer le pion. Seulement pour ça, il faut avoir une véritable volonté politique. Il est toujours plus facile donc de dire bah c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Europe. Combien de mairies, combien d'associations ici à Manosque ou dans la DLVA fonctionneraient sans les subventions européennes? Je vous invite fortement à demander à vos maires respectifs et à vos élus respectifs combien ils reçoivent de subventions à la région, au département ou dans les mairies. Et voir encore des mairies ne se pavoiser que du drapeau tricolore comme c'est encore le cas à Manosque, ça me fait un peu doucement rêver. Plutôt, je suis un peu triste de cette chose-là. Je trouve qu'on devrait pavoiser les édifices publics. C'est pas la peine de pavoiser les salles de classe. Ça ne sert strictement à rien. Il y a d'autres priorités. On pourrait aussi parler des crises migratoires, puisque c'est ça le problème. En fait, le problème, il est là. Il n'est pas tellement dans notre développement économique. Il n'est pas véritablement dans le fait que j'ai des régions pauvres, j'ai des régions riches. La France, dans son unité, dans son indivisibilité, a toujours eu des régions pauvres, des régions riches. Moi et James, on vient d'une région picarde où avant, vous aviez des industries textiles dans toutes les vallées et qui ont fermé. Et ça n'a pas fait pleurer qui que ce soit. Elles ferment à ce point-là. Par exemple, pour les délocalisations, bien sûr que l'ouvrier français qui voit son entreprise fermée, délocalisée, il peut avoir du souci à se faire. C'est une évidence. Mais c'est pas l'Europe qui est responsable de ça. C'est bien le rôle des entreprises qui est responsable de ça. Il aurait peut-être fallu aussi, c'est pas non plus l'euro qui est responsable de l'augmentation des prix de l'immobilier à Manosque, ou du pain, ou de la baguette, ou du gin, et tout ce qui s'en suit. C'est pas ça. C'est la spéculation. Il y a des gens qui ont spéculé. Je me souviens à l'époque, j'étais à Fort-Calquier, prenez le café à 4 francs, si mes sondages sont exacts. Tout d'un coup, j'ai vu tous les cafetiers de Foire Calquier mettre le café à 1,50€. Pourquoi 1,50€? Je sais pas. Ils ont dû se dire que c'était bien. Seulement, au bout de 3-4 jours, quand ils ont vu que plus personne ne venait, ils ont dit, c'est super. Et l'euro, en plus, ça a facilité la chose parce que les gens ne faisaient pas obligatoirement la multiplication par 6,50. Je vous invite à faire 6,50 et à regarder quels étaient les prix à une époque et quels sont les prix aujourd'hui pour voir un peu jusqu'où est allé le problème. Et bizarrement, quand je voyage, quand je vais avec mes élèves en Allemagne, ou quand je voyage en Italie, ou quand je voyage en Belgique, ou dans d'autres pays qui ont l'euro, je me rends compte de quoi ? Je me rends compte que les écarts de salaire, ils existaient avant l'euro, c'est pas l'euro qui a fait les écarts de salaire. Moi, quand je bossais en Allemagne, je gagnais le double en tant qu'ouvrier spécialisé, je gagnais le double de ce que je gagnais en tant qu'ouvrier spécialisé à Strasbourg. Donc, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je bois ? Mon café, il me coûte pas la même chose quand je vais en Espagne, quand je vais en Allemagne. Mes cigarettes ne coûtent pas la même chose. Le logement ne coûte pas la même chose. Bizarrement, je trouve des logements moins chers dans la région de Stuttgart, alors que c'est quand même une région riche en Allemagne qu'ici à Manosque. Non, le problème, on met sur l'Europe beaucoup de choses qu'en fait, le problème, c'est plutôt nous. C'est plutôt nous, en tant que Français, franco-français, ne regardant que nous. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre un peu de la hauteur et puis regarder comment se passe cette Europe réellement. À force de dire que c'est de la faute de tout le monde. Je répète, les autoroutes en Allemagne sont gratuites. Elles n'ont pas été vendues à Vinci ou à qui que ce soit d'autre. Elles sont gratuites. Expliquez-moi pourquoi là-bas c'est possible et pas chez nous.
Alors, à qui profite la division européenne ?
Bon, si on restait 28 là, admettons que nous restions 28. Alors, si on reste à 28, nous sommes quasiment la première puissance économique du monde, la deuxième. Voilà. La deuxième puissance économique du monde après les États-Unis. Donc, à qui profite la division ? Bon, ça profite bien sûr à certains pays. Vous avez des pays de puissance moyenne, on va dire, comme la Turquie, avec Monsieur Erdogan qui se permet de dire « Mais vous savez, Madame Angela Merkel, si jamais vous n'acceptez pas mes dires, moi, je vais faire en sorte que les Turcs d'Allemagne votent contre vous si vous soutenez les Kurdes et les démocrates turcs. » Ça profite aussi à Vladimir Poutine et à la Russie. Non pas que les Russes aient envie de rentrer en guerre avec nous, parce que c'est pas le problème du peuple russe. Je pense qu'ils ont d'autres problèmes à se poser, y compris de développement, de retraite à l'heure actuelle. On a de grosses manifestations en Russie à l'heure actuelle. Non, le problème, il est surtout pour les Polonais et les Baltes qui regardent la Russie avec inquiétude, parce qu'ils se disent, mais ce qu'ils ont été faire en Ukraine à remettre en question les frontières, chose qui était interdite par les Nations Unies, ils peuvent le faire aussi pour nous, les Baltes. Donc, ils demandent l'aide des Européens. Vous avez l'armée française qui vole au-dessus des pays baltes avec ses avions de chasse, vous avez les Américains qui sont encore présents avec l'OTAN, vous avez les Chinois aussi qui s'intéressent beaucoup à la division de l'Europe et notamment aux pays d'Europe de l'Est en disant, nous si vous voulez, ils s'en servent en fait comme tête de pont, ils installent des entreprises chinoises en Tchéquie ou en Slovaquie ou en Hongrie, en échange de quoi les Hongrois, les Tchèques et les Slovaques, quand les Européens veulent faire quelque chose un peu contre ce dumping chinois, eh bien vous avez trois pays qui votent contre. Vous avez aussi les Américains, nos amis américains, nos chers amis américains, qui avec Trump nous font un peu le chantage, c'est-à-dire, faites attention, on va partir. Ce qui sera à peu près légitime. Il n'est pas normal qu'un pays comme les États-Unis protège encore l'Europe. Mais ils font aussi autre chose, les Américains, c'est qu'ils servent leurs propres intérêts. Et nous, Européens, on part divisés dans ces intérêts-là. Quand on a un problème avec les États-Unis, que font les États-Unis ? Ils vont voir les trois capitales qui comptent, les quatre capitales qui comptent, et ainsi, ils divisent pour mieux régner. Ainsi, vous ne pouvez pas avoir de taxes européennes sur les GAFAM. Pourquoi ? Parce que vous avez automatiquement l'Irlande qui va dire non. Alors, je préfère aussi parler aussi de ce qui marche, parce qu'il faut arrêter de dire toujours « l'Europe, c'est pas bien, l'Europe, c'est pas bien ». Pour ceux qui ont voyagé il y a longtemps, et c'est pour les plus anciens d'entre nous, quand on voyageait il y a 30 ans en Irlande, en Pologne, dans le sud de l'Italie, dans le sud de l'Espagne, vous étiez dans des régions en voie de développement. Les ponts, les autoroutes, les aéroports, les écoles, tout ça a été fait par les subventions européennes. Je veux dire, c'est quand même un des grands enjeux. La scolarité chez nous, si nonobstant les Anglais qui ont décidé de faire des universités très payantes, l'université est quasi gratuite dans l'ensemble des pays européens. Vous pouvez être un étudiant européen au sens Erasmus. bien du terme. C'est-à-dire, vous pouvez faire vos études à Bruxelles, vous pouvez faire vos études à Rome, vous pouvez tomber amoureuse d'une Slovaque ou d'une Tchèque et puis vivre à Prague ou à Bratislava. Bref, vous avez une ouverture des frontières qui est plus intéressante qu'une fermeture des frontières. Et enfin, je terminerai là-dessus. L'Europe, n'oubliez pas que c'est un exemple mondial. La CEE, ça a été un exemple pour le Mercosur, dont on parle en Amérique latine, c'est-à-dire que des Sud-Américains se sont dit, pour être indépendants des États-Unis, il faut s'unir comme les Européens. L'Union Européenne, c'est un exemple pour l'Union Africaine. L'Union Africaine qui demande des conseils aux Européens. Comment vous avez fait, vous, à vous qui avez fait autant de guerres mondiales, qui vous êtes écharpé depuis des siècles et des siècles pour enfin être en paix depuis plus de 74 ans? Comment vous avez fait? Ben voilà, nous, on a fait comme ça. Vous dites, imaginez pas ce qu'est l'Europe pour les gens. Et je répète, on dit l'immigration est un problème, mais on se pose pas la question du tourisme. Nous sommes le premier pôle touristique au monde. Les Chinois viennent chez nous, les Asiatiques viennent chez nous. On rêve d'Europe partout. Le rêve américain, oui, bien, bon, d'accord, il reste, il perdure, mais on rêve d'Europe partout dans le monde. Et c'est pas pour rien que vous avez des Africains qui traversent le Sahara, qui traversent les pays nord-africains au risque de leur vie ou de l'esclavage pour aller venir chez nous. C'est pas pour les allocations, c'est pas pour des choses de ce type. Ça, c'est vraiment un discours mesquin, c'est aussi mesquin et nul que le discours quand on dit « Ah, les pauvres RSA, qu'est-ce qui nous coûte cher ?» Ce qui nous coûte cher, ce sont les banques qui nous ont mis dedans en 2007, en 2006, dans la crise des subprimes et qui ont spéculé, qui ont participé à la spéculation. C'est eux qu'on a couvert à coup de milliards d'euros. C'est pas le petit Africain qui traverse. Et la question qu'il faudrait se poser aussi pour l'avenir de l'Europe, c'est l'Europe peut être un pilier dans un monde multipolaire. C'est sûr que si on préfère l'unilatéralisme à la Trump ou à la Bolsonaro ou à Poutine et compagnie, c'est sûr que l'Europe, effectivement, elle peut disparaître, ça serait très bien ensemble. Mais si on est pour le multilatéralisme, si on est pour l'état d'esprit plutôt des Nations Unies, la paix par le développement économique social, la paix par la démocratie, eh bien, il vaut mieux être pro-européen, mes chers auditeurs, qu'être anti-européen. Anti-européen, vous vous enfoncez, et l'anti-européen, pour James et moi qui avons vécu en Picardie, il suffit juste de vous balader dans les cimetières des villages, autour des villages picards de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Si on vous cherchait quelque chose de sacré dans l'Europe, si vous cherchez quelque chose à vous convertir à l'idée européenne, allez une fois à Verdun, allez une fois dans ces régions, regardez bien les tombes et vous verrez que ben, il y a pas que des Français qui sont morts là, et que le patriotisme, eh bien, ça a une limite. La limite, c'est l'humanité. Voilà, c'est l'humanité. Pensez toujours à l'humain avant de penser à la patrie. La patrie, vous y viendrez un jour, comme dit Jaurès. Au revoir, chers auditeurs et auditrices, chers citoyens, actuels ou en herbe, ou plus tard. Je remercie ici très chaleureusement Fréquence Mistral et James Fontaine à la technique. Je vous donne rendez-vous mercredi 27 mars prochain à 15h, même horaire de début, même horaire de fin, avec un thème, la politique étrangère de Donald Trump. Galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick. But out by us, it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.